9h-10h, à votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM.
À votre spiritualité, c'est l'imam Abdelali Mamoun qui vous donne rendez-vous tous les jeudis entre 9h et 10h. Bonjour imam Abdelali.
Bonjour Philippe, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Vous savez, cette émission, plusieurs temps, plusieurs rubriques, mais vous avez la parole, évidemment, hein, si vous avez des questions à poser à l'imam Abdelali. L'émission est en direct, donc vous avez le standard en dernière partie d'émission que vous composez pour interroger l'imam au 01 53 48 3001, un sujet qui fâche pour commencer cette émission, comme il est tradition.
Tu m'as déjà fâché ce matin, tu m'insultes de sanguinaire, t'as pas honte, Philippe, de... Moi, l'imam Abdelali, le doux par excellence, l'agneau par excellence, tu me dis que je ferais un...
Alors là, l'imam Abdelali, si vous voulez...
Déguisé en agneau, c'est ça ?
On peut en parler, mais c'est pas le sujet de l'émission. On pourrait en débattre, mais c'est pas le sujet de l'émission.
Un petit peu, sans rapport avec la première question.
Non, mais vous, hein, imam Abdelali. On va parler d'un autre sujet, puisque c'est un sujet qui revient souvent, puisque beaucoup racontent et critiquent le prophète de l'islam pour avoir été d'abord un chef de guerre sanguinaire, hein, qui aimait guerroyer et puis surtout voler les biens et les terres des autres tribus arabes. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ça ?
Bah, c'est totalement faux. Bien sûr que si on a une lecture objective et intelligente et globale de la vie du prophète Mohammed sallam, on constate que tout cela est totalement faux et que le prophète, l'essentiel de sa vie, n'a jamais été de guerroyer. Au contraire, cela a été d'éviter de guerroyer, de rétablir la paix, de rétablir un climat de sérénité dans la péninsule arabique et entre les tribus, qui, je le rappelle, au moment de l'avènement de l'islam, c'était une situation chaotique, sans foi ni loi. Ou est-ce que toutes les tribus, à partir du moment où elles avaient un peu de force et un peu de puissance, eh bien, en profitaient pour aller spolier, s'accaparer les biens des autres. Donc, ce sont des tribus qui s'entre-déchiraient insensément, et il fallait, pour pouvoir transmettre le message de Dieu, avoir un climat serein, parce que cela ne favorisait pas, ce climat de guerre ne favorisait pas la propagation du message de paix et d'amour que Dieu a transmis à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Alors d'où vient-elle cette image de chef de guerre déjà ?
Moi je crois qu'elle vient tout simplement de nos savants, de nos historiens, de nos enseignants de cette histoire, de cette sira, comme on appelle en arabe, sira qui signifie le cheminement. Le sira, c'est le cheminement de la vie de notre prophète bien-aimé Mohammed alayhi salatu wassalam, qui, quand on lit presque du début jusqu'à la fin, ce ne sont que la succession d'actes de violence, de batailles, de guerres, d'expéditions guerrières, etc., de Saraya, de Ghazawat, même au début de l'avènement de l'islam, où est-ce qu'on parle de Harb al-Fijar, la bataille alors qu'on devrait l'appeler Hilf al-Fudul, puisque effectivement il y a eu une bataille entre les Quraysh, je parle d'avant l'avènement de l'islam, hein, entre Quraysh et Taif, la tribu de Taif. Il y a eu une guerre entre les deux, et ce n'est pas une guerre religieuse, c'était une guerre tribale. Eh bien, elle a abouti à un Hilf, c'est ce pacte de paix qui a été très très fort et qui a permis justement de rétablir un pseudo climat de paix à la Mecque et dans ses alentours et dans sa banlieue, puisque Taïf, je le rappelle, est une ville située à 60 et quelques kilomètres au sud-est de la Mecque, et en plein milieu de la montagne, dans une chaîne de montagnes. Et je rappelle que ces tribus-là qui étaient autour de la Mecque rendaient visite à la Mecque et accomplissaient le pèlerinage avant même l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils avaient besoin d'avoir des rapports de paix avec les Mécois qui étaient censés les accueillir pour pouvoir accomplir le culte d'adoration de leurs idoles, bien sûr, mais il s'agissait d'abord de vénérer le sanctuaire de la Mecque, qui est la Kaaba.
Alors, combien est-ce qu'on dénombre de batailles ?
Alors, il y a eu effectivement une centaine
de
batailles.
Parce qu'il y en a quand même un certain nombre.
Une centaine de batailles entre Saraya et Ghazawat, c'est à peu près une centaine. Donc, le prophète n'a pas forcément toujours participé. Mais il faut savoir que la plupart de ces batailles, à part une dizaine, il n'y a pas eu d'affrontement. C'est-à-dire, ce ne sont pas des batailles où il y a eu conflit ou échange de guerre. C'est-à-dire, il n'y a pas eu des échanges où il y a eu des morts. Hein, c'est surtout des expéditions dissuasives qui avaient pour objet de faire peur à l'adversaire pour l'encourager à partir et à revenir chez lui. Et dans la plupart des cas, bien entendu aussi, ce sont des batailles défensive, où le prophète est essentiellement dans une position de défense. La seule fois où c'est d'abord l'une des toutes premières, c'est même la première bataille, la bataille de Badr, qui effectivement avait pour objet de récupérer les biens qui avaient été spoliés par les Mécois et laissés par les immigrants. Par exemple, je vous citerai Sohib Rumi, par exemple, ce fameux compagnon d'origine byzantine, qui a eu la permission de quitter la Mecque sans faire l'objet de persécution de la part des Mécois, mais en contrepartie, il devait laisser l'intégralité de ses biens, ce qui est bien entendu totalement injuste. Au moment où est-ce que le prophète entend parler d'une caravane commerciale envoyée par les Mécois, dans lequel se trouvaient essentiellement les biens délaissés par les immigrants, c'est-à-dire par les musulmans qui ont immigré de la Mecque vers Médine. Donc, c'est-à-dire qu'on avait transporté leurs biens, c'est-à-dire tout ce qu'ils avaient délaissé, pour aller le vendre en Cham, c'est-à-dire en Syrie et autres territoires du Nord, pour pouvoir gagner de l'argent sur le dos des biens des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète se disait être en droit de récupérer cette caravane, puisque c'était leur bien qu'ils avaient laissé derrière eux et qui avait été spolié par les Mécois. Donc l'objet de la bataille de Badr, c'était simplement de récupérer. C'est pour cela que le prophète n'envoie que 300 et quelques hommes légèrement armés pour récupérer cette caravane, composée que seulement d'une trentaine de gardiens. Ils sont 300, il sait qu'avec 300, il va avoir suffisamment de pouvoir dissuasif pour faire fuir les gardiens et récupérer sa caravane sans effusion de sang. Et malheureusement, la situation va tourner au vinaigre, puisque les Quraysh, entendant parler de l'avènement de cette expédition du prophète, elle va envoyer 1000 hommes, presque 1000 hommes, pour affronter le prophète et ses compagnons. Bon, bref, voilà, en gros, on peut pas détailler.
Et si on parle de la conquête de la Mecque, alors, Imam Abdelali.
La conquête de la Mecque, là encore, c'était parce que l'année 6, nous sommes l'année 6, il faut revenir 2 ans en avant, hein, puisque la conquête de la Mecque a eu lieu l'année 8. Donc l'année 6, 2 années avant, le prophète signe un pacte de paix avec Quraysh. Voilà, pendant 10 ans, personne n'attaque personne. On est en paix, chacun fait ce qu'il veut. Vous voulez venir chez nous, vous êtes la bienvenue. On vient chez vous, vous êtes la bienvenue. On peut accomplir le pèlerinage, etc., etc. Entre autres, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails de cet accord de paix qui a été signé, ce qu'on appelle...
D'accord, accord de non-agression.
Pacte de non-agression, d'une trêve, une véritable trêve de 10 ans, où est-ce que les Mécois et les Médinois, c'est-à-dire les musulmans et les non-musulmans, vivront en paix et pourront s'échanger en toute sécurité. C'est ce que le prophète va justement réaliser l'année suivante, l'année 7, ce qu'il va accomplir, ce Umratul Qadha, ce pèlerinage, ce petit pèlerinage de rattrapage, puisqu'il va compenser le pèlerinage qu'il devait faire l'année précédente, c'est-à-dire cette Umra de l'année 6, et qu'il va remplacer par le pèlerinage de l'année 7. Donc il va rentrer à la Mecque et il va pouvoir côtoyer et ses compagnons vont pouvoir côtoyer les Mécois. Et c'est effectivement pendant cette période-là où est-ce qu'il va y avoir le plus de convertis. On va avoir par exemple des personnages tels que Khalid ibn al-Walid, hein, ce fameux stratège guerrier qui grâce à lui, bon grâce à Dieu bien sûr, mais grâce à sa stratégie, à son intelligence de guerre, eh bien, va pouvoir conquérir souvent sans effusion de sang et va préserver le sang de beaucoup de musulmans. Ça va être le cas notamment lors de la bataille de Mu'tah. On va y revenir tout à l'heure. Mais pour revenir à la conquête de la Mecque, ce sont les Mécois qui vont transgresser cet accord, cette trêve, et vont attaquer une tribu musulmane qui avait prêté allégeance à Mohammed alayhi salatu wasalam et aux musulmans, et c'est cette transgression qui va rompre la trêve. Mais le prophète, au lieu d'informer tout le monde, allez, on va faire la guerre aux Mécois, de manière à ce qu'il y ait une véritable grande bataille d'Armageddon, une bataille décisive où est-ce qu'il va y avoir des milliers de morts, il s'assure de la discrétion totale quant à l'organisation de cette bataille. Le personnage qui fait l'objet justement de notre devinette, Philippe, où est-ce que l'on doit découvrir, je reviendrai là-dessus. Mais le personnage est en rapport justement au fait que le prophète a voulu justement garder cette discrétion totale pour éviter l'effusion du sang. Pourquoi ? Parce qu'en évitant, par cette discrétion, il empêchait les Mécois de se préparer. à affronter le prophète. Et donc, il pouvait les prendre grâce à cela par surprise, de manière extrêmement dissuasive. Et ça a été le cas, puisque la Mecque, lors de la conquête de la Mecque, pas une goutte de sang n'a été coulée. Et les musulmans ont pu entrer de manière dissuasive à la Mecque sans écoulement de sang.
Alors, il y a deux batailles contre les Byzantins, Imam Abdelali, Mouta et Tabouk. Alors là, c'est des batailles là où il y a eu un grand nombre de morts.
Alors, d'abord, la bataille où est-ce que le prophète pensait qu'il y allait avoir du sang, eh bien là, il prend ses dispositions, il mobilise la totalité de tous les hommes valides. C'est la bataille de Tabouk, c'est l'une des dernières batailles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où 40 000 hommes sont mobilisés pour affronter 150 000 Byzantins. Mais justement, grâce à cette mobilisation lourdement armée de ses compagnons et très forte, les Byzantins ont eu peur et ont retroussé leurs...
Ils ont détalé,
ouais. Alors qu'ils étaient quand même 150 000. Donc c'était véritablement une démarche dissuasive. L'autre bataille, où est-ce que le prophète justement ne pensait pas qu'il allait avoir... un affrontement, c'est-à-dire qu'il y a un affrontement. Il n'envoie que 3000 hommes, c'est la bataille de Mouta. Nous sommes l'année 7 de l'Hégire. Le prophète est en paix avec les Mécois, mais il n'est pas en paix avec les Byzantins qui menacent Médine. Donc il envoie seulement que 3000 hommes pour voir un petit peu comment ça se passe. Mais malheureusement, cette bataille va effectivement être très sanguinaire. Je dirais même que c'est la bataille où il y a eu le plus de morts tout au long de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais à chaque fois, ça a été dans une position défensive. À tel point que même le quatrième émir, le quatrième chef, chef de bataille, chef de guerre de cette expédition, qui va être Khalid ibn Walid, puisque les trois premiers vont mourir sur le champ de bataille, en l'occurrence Zayd ibn Haritha, ensuite c'est Ja'far ibn Abi Talib, le cousin du prophète. Alors on parle quand même de Zayd, c'est quand même l'ex-fils adoptif du prophète, hein, puisque donc c'était le Hibb Rasoul, un des personnages le plus aimé du prophète. Il meurt sur le champ de bataille. Tu crois que le prophète aurait aimé apprécier envoyer à la boucherie son ex-fils adoptif qu'il va appeler ensuite son bien-aimé? Hein, son cousin, Ja'far ibn Abi Talib, et ensuite l'un des plus grands poètes qu'il aimait le plus, et qui était un érudit en poésie, un des plus grands poètes qui était celui qui diffusait et qui propageait l'art de la guerre, de la communication, Abdullah ibn Rawaha, radiyallahu anhum jami'an, eh bien ces trois sont morts sur le champ de bataille, et c'est Khalid, par une stratégie extraordinaire, qui va réussir à sauver cette armée, puisque 3000 hommes face à plus de 150 000 hommes, et on parle des Byzantins, eh bien, il va trouver une idée, c'est d'échanger les combattants, c'est-à-dire de ceux qui étaient à droite, de les mettre à gauche, et ceux qui étaient à gauche, de les mettre à droite. Ceux qui étaient devant, de les mettre derrière, et ceux qui étaient derrière, de les mettre devant. De manière à ce que les visages que vont découvrir les Byzantins face à eux soient différents que ceux qu'ils avaient vus la veille. Et c'est grâce à cela... En plus, il avait
un stratagème.
Il avait il avait envoyé quelques dizaines d'hommes pour faire de la poussière pour remuer le sol, pour provoquer de la poussière, pour faire croire aux Byzantins que les musulmans avaient reçu le madad, c'est-à-dire de l'aide et un soutien militaire, et que ils arrivaient par centaines et par milliers, et donc ils ont commencé à être effrayés, alors que c'était pas vrai. Les 3000 hommes étaient restés que 3000 hommes, mais grâce à cela, les Byzantins ont commencé à reculer, mais les musulmans, au lieu de les poursuivre, eux aussi ont reculé. Regarde Khalid, avec son intelligence et son stratège, ne va pas dans son esprit guerroyeur jeter dans la fosse au loup, dans la gueule du loup, ses compagnons et les vouer à une mort certaine. Au contraire, il préserve le sang de ses amis, de ses compagnons, et il repart à Médine. À tel point qu'en arrivant à Médine, les gens qui avaient connaissance de ce qui s'était passé, ont dit « Oh, regardez les déserteurs, ils ont fui la bataille !» Ils ont dit « Al-Furrar ». On dit « Ils sont déserteurs ». Le prophète a rétorqué et a répondu en disant « Non, bel al-Qurrar ». Au contraire, ce sont des vrais guerriers vaillants et courageux et braves qui ont réussi et intelligemment à faire fuir l'ennemi sans écouler le sang. Et le prophète disait lui-même « La tatamanna ou liqa al-adou ». Le prophète disait « N'espérez pas et ne soyez pas des gens qui sont dans l'amour du risque de vouloir affronter l'ennemi. Demandez à Dieu d'être préservé et de ne pas être blessé ni faire l'objet d'agressions quelconques de la part de vos adversaires. Il évitait. Donc c'était une guerre d'abord psychologique. C'était d'abord, regarde, la totalité, pour finir, je termine avec ça, Philippe, la totalité des morts dans les deux camps pendant ces 8 années de bataille, puisque le début de la guerre musulmane ont commencé l'année 2 de l'Hégire jusqu'à sa mort au début de l'année 11. Hein, donc pendant ces 8 années, eh bien, Philippe, il n'y a eu que combien? 659 morts des deux camps. Où t'as vu, toi, en 8 ans de guerre, seulement 659 morts? Quand on voit que la deuxième guerre mondiale, Philippe, c'est 70 millions de morts. Hein? Donc, faut pas comparer. Le prophète était loin d'être était loin d'être un chef de guerre ou qui aimait combattre et guerroyer.
Bien, Imam Abdelali. Alors tout à l'heure, on posera une nouvelle question pour remporter la fameuse poupée Shifa. Vous nous donnerez la réponse de la question que vous avez posée la semaine dernière et ils étaient nombreux à vouloir répondre à cette question, mais on n'a pas eu de bonne réponse. Et dans un instant, Imam Abdelali Mamoun, eh bien, vous évoquez une nouvelle profession, c'est celle des artisans. 01 53 48 3000. Si vous avez des questions à poser, préparez-vous à le faire. Hein, vous pourrez le faire dans un instant.
9h-10h, à votre spiritualité. Philippe Robichon sur Beurre FM.
Avec l'imam Abdelali Mamoun qui vous donne rendez-vous tous les jeudis, hein, 9h-10h, notez bien ce rendez-vous pour ceux qui arrivent en début d'année et qui prennent de nouvelles habitudes. Alors chaque semaine, vous évoquez une profession au regard de l'islam, Imam Abdelali, mais d'abord, vous allez poser la question qui permet à ceux qui nous écoutent ce matin, s'ils donnent la bonne réponse, de repartir avec la nouvelle version d'une poupée Shifa, si vous avez la question, sinon...
Ah bah voilà. Oui, bien sûr qu'on a la question. Alors, la question est...
Alors, on a la question, mais elle arrive.
Alors, oui, d'abord, on l'avait posée la semaine dernière, mais on n'avait pas eu de réponse. Donc, on va reprendre celle-là. C'est justement celle qui est en rapport avec la bataille.
La réponse, parce qu'on était presque celle-là. Donc,
Mais on n'avait pas de nom. Personne n'a été capable de nous ramener... je parlais, moi, du nom.
Non, moi, j'ai parlé de la baleine.
Ah oui, la baleine, oui. Alors, celle-là, effectivement, je peux donner la réponse, effectivement, maintenant. C'est la vésicule biliaire.
Donc, quand on arrive au paradis...
Effectivement, la première nourriture que l'on offre comme une forme d'hors d'œuvre que reçoit un invité quand il arrive dans une salle de réception, hein, vous savez, ce fameux plateau que l'on tend aux invités, eh bien, au lieu d'avoir des amuse-gueules, eh bien, la première amuse-gueule, la première hors d'œuvre que l'on va donner aux musulmans, aux croyants, à tous ces gens qui ont mérité d'aller au paradis et que l'on va brandir, eh bien, c'est justement cette vésicule biliaire. Pourquoi la vésicule biliaire? Eh bien, tout simplement parce qu'effectivement, s'il y a bien sur Terre quelque chose d'amer et de vraiment écœurant à imaginer que l'on puisse mettre dans la bouche et consommer, c'est bien la vésicule biliaire. Philippe, on est bien d'accord. Hein, en arabe, on appelle ça le marara. Imagine, le marara.
J'y penserais même pas.
Enfin, le mot marara, ça vient du mot de momor qui veut dire amer, quelque chose d'amer. Il n'y a pas plus amer que la vésicule biliaire. Pourquoi? Tout simplement parce que ce qu'il y aura de moins délicieux au paradis, je dis bien le moins délicieux, mais qui sera extrêmement délicieux par rapport aux autres mets qui seront offerts aux musulmans au paradis, ou à tous les croyants, à tous ceux qui ont mérité d'aller au paradis, eh bien, ce qu'il y aura de moins délicieux, c'est la vésicule biliaire. Pourquoi? Parce que c'est la chose la nourriture la plus amère que l'on peut trouver sur Terre.
Bon, donc c'est pour cela qu'il y a une transition. Par le moins bon.
Voilà, on commencera. Pourquoi? Pour avoir une transition, pour que le corps humain ne soit pas trop choqué de commencer directement par les mets les plus délicieux qui pourraient provoquer un choc puisque le goût sera tellement trop fort pour lui qu'il pourrait être traumatisé par la transition entre la nourriture de la terre et la nourriture du paradis. Donc Dieu commence par offrir ce qu'il y a de le mets le moins bon pour y aller avec modération. Bien sûr, cette vésicule biliaire aura un goût d'un délice extraordinaire et qui sera particulièrement apprécié par tous ceux qui la consommeront. Bien sûr, sera suivi d'un grand mets qui sera un taureau, un immense taureau, au paradis. Ça, c'est
ça, les auditeurs,
le plat de résistance que consommeront les musulmans au paradis.
Avaient trouvé le taureau. Bien. Alors, la question du jour, Imam Abdelali.
Alors, la question du jour que j'avais posée aussi, mais dont je n'ai pas eu de réponse, c'est le nom du compagnon Badri, c'est-à-dire du compagnon qui a participé à la bataille de Badr et qui a failli trahir les musulmans en envoyant un message aux Mécois que le prophète allait conquérir la Mecque et dont le prophète souhaitait la discrétion totale et que lui allait transgresser et aller, on va dire, bafouer cette discrétion que le prophète souhaitait pour éviter les fusions du sang et pour prendre en surprise les Mécois. Bon. Et ce compagnon-là a envoyé une femme, et cette femme-là a caché dans ses cheveux le message, et elle est partie en direction de la Mecque, et le prophète a reçu la révélation et a reçu l'information de Dieu que ce compagnon-là avait trahi le prophète et qu'il fallait récupérer le message auprès de cette femme-là. Le prophète a donc envoyé Ali et Zubayr, ces deux compagnons-là ont attrapé cette femme-là, ils lui ont dit « soit tu nous sors le message, soit on te dénude, soit on te déshabille ». Et là, la femme, bien sûr, par volonté qu'on lui préserve sa dignité, a sorti de ses cheveux ce message et ils sont revenus avec auprès du prophète. Et le prophète a quand même pardonné à ce compagnon-là parce que Dieu avait décidé de pardonner à tous les badris, à tous les gens qui ont participé à la badr, et parce qu'il leur a déclaré en disant « faites ce que vous voulez ». Vous serez pardonné.
Bon, donc c'est un nom de compagnon qu'on recherche.
Voilà, ce compagnon-là, c'est lui le fameux traître qui a trahi, mais qui a été quand même pardonné par Dieu.
Et on prendra vos réponses dans un instant au 01 53 48 3000. Imam Abdelali, les artisans, aujourd'hui, c'est la profession sur laquelle vous avez décidé de vous pencher. Alors pourquoi les artisans finalement? Quelles sont les règles finalement qui les concernent?
Eh ben oui, il peut y avoir effectivement des règles en rapport avec la pratique religieuse, mais effectivement on peut dire que globalement l'artisanat est quelque chose d'apprécié.
Parce qu'on a vu les commerçants, donc c'est finalement, oui. Quelle est la différence?
La différence c'est que le commerçant lui va vendre le travail de l'artisan, alors que celui qui crée une véritable valeur ajoutée, ce n'est pas le vendeur qui va, ce qu'on appelle, faire comment on appelle ça dans la bourse, des...
Varier le prix.
Voilà. Voilà, faire j'ai au bout de la langue, me revenir.
Vous faites une balance.
Donc. Voilà, c'est voilà qui fait monter et baisser les enchères des produits. Celui qui va donc être à l'origine de ce produit, c'est bien l'artisan qui fabrique ce produit-là. Bon, effectivement, quand on parle de l'artisanat dans notre époque contemporaine, c'est pour faire le distinguo avec l'industrie. Puisque l'industrie, elle, fabrique à grande échelle, pour une économie d'échelle, pour vendre à bas prix, mais ce sont souvent des produits de bas de gamme. Mais souvent mieux contrôlés que les produits artisanaux. Donc l'artisanat est une large activité effectivement pratiquée par beaucoup de professionnels, même par des gens qui ne sont pas des professionnels. On peut retrouver aussi chez des gens qui n'ont pas choisi d'avoir une autre activité. Mais effectivement, elle est reconnue comme une activité. Il y a même la chambre de l'artisanat qui existe en France, la chambre des métiers de l'artisanat qui existe en France. Il y a même un ministère de l'artisanat. À partir de là, toutes ces activités-là se sont regroupées pour parler d'activités professionnelles en rapport avec le côté artistique et je dirais même culturel et parfois même civilisationnel d'une société quelconque. Quand on parle en France, par exemple, je sais pas moi, de l'artisanat du fromage, c'est de l'artisanat. Il y a effectivement l'industrie du fromage, mais il y a aussi de l'artisanat. On ne peut pas négliger que des fromagers qui font un travail de qualité pour fabriquer un fromage de haut de gamme, eh bien, soit des industriels de ce métier-là. On va parler d'artisans, mais l'orfèvrerie aussi, ceux qui fabriquent des bijoux, ceux qui fabriquent des objets d'art, ceux qui fabriquent avec du bois aussi, les ébénistes. Dans la broderie, les tissus, la verrerie aussi. Vous savez qu'avec le verre, aujourd'hui, on fabrique des objets d'une beauté extraordinaire, rien qu'avec le verre, voire même le cristal. Aussi, on fabrique avec de l'argile, avec du bois, avec des métaux, le bronze, etc. Énormément d'objets artistiques qui ont pour objet soit d'être utiles ou simplement décoratifs. Donc dans tous les cas, c'est autorisé. Bien entendu, il y a certain nombre de règles à respecter en la matière. On peut parler aussi de l'artisanat de la pierre, parce que on va beaucoup utiliser la pierre pour, par exemple, reconsolider des bâtisses anciennes qui sont par exemple classés patrimoine, etc. Ou est-ce que les artisans vont faire attention de fabriquer avec les mêmes matériaux, les mêmes catégories de pierres pour avoir une homogénéité et d'essayer d'être fidèle à la fabrication d'origine.
Alors, tout cela. Est-ce que vous incluez le marbre dedans, par exemple?
Oui, bien sûr. D'accord. Toutes les pierres comprises sont autorisées. Maintenant,
qu'est-ce qu'ils doivent pas fabriquer, finalement? Eh bien, est-ce qu'il y a des interdits?
Les interdits, ce sont les icônes. Tout simplement. C'est la seule chose qui est interdite, ce sont les icônes. C'est-à-dire le fait d'utiliser tous ces matériaux que je viens de citer. Le bois, la pierre, l'argile, etc., etc., même le verre, etc., etc., ou les métaux, pour fabriquer des icônes, c'est-à-dire des personnages, des êtres humains ou des animaux. C'est-à-dire ce qu'on appelle tout ce qui peut avoir une âme. Et ça, bien sûr, c'est proscrit à partir du moment où est-ce qu'elle a une tête et un visage, avec des yeux surtout. Ça, c'est important, c'est les yeux. C'est que si on supprime les yeux, eh bien, la dimension humaine et animale, le côté esprit et âme, disparaît. C'est-à-dire, si vous faites une statue, mais vous ne donnez pas de visage à cette statue, eh bien, cela sera permis. Vous pourrez même l'exhiber en forme de décoration, voire même un tableau, par exemple, avec des créatures, des chameaux, des chevaux, etc. Mais on ne voit pas bien le visage, c'est autorisé. À partir du moment où il y a un visage exhibé qui laisse apparaître et qui extériorise l'esprit et l'âme de la créature qui a été fabriquée et qui a été donc sculpté, eh bien cela devient proscrit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a bien sûr proscrit, et il dit, selon Aïcha radiallahu ta'ala anha et Habiba, donc et Salama, donc tous ont rapporté cette version de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a fait part de statues et d'icônes qui étaient posées dans une église, au Habasha, c'est-à-dire en Éthiopie, le prophète a dit inna ulaika idha kana fihim rajul salih famata banu ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka as-suwar fa ulaika shirarul khalq inda Allah yawm al-qiyamah rawahu al-Bukhari wa Muslim. Donc ces gens-là, ce sont des gens qui, quand mourait un homme pieux parmi eux, ils lui fabriquaient un mausolée avec une statue, avec une icône à l'image de ce personnage, et qui finalement devenait une idole et qu'ils vénéraient à la place de Dieu. Et Dieu, le prophète, dit que ce sont aux yeux de Dieu les personnes les plus mauvaises qu'il a pu créer jusqu'au jour du jugement dernier. Shirarul khalqi yawm al-qiyama, le jour de la résurrection. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Et le prophète dit dans un hadith authentique là encore, La'anallahu al-musawwirin, Dieu a maudit les gens qui fabriquent des icônes et qui fabriquent des statues.
Et maintenant, pour terminer avec les métaux précieux que sont l'argent et l'or,
oui, effectivement, là encore, quand on parle d'orfèvrerie et de fabrique d'objets d'art avec de l'or et de l'argent, eh bien, effectivement, l'islam proscrit et interdit l'utilisation de ces métaux pour en faire des objets utiles à la consommation, c'est-à-dire des assiettes, des couverts, des récipients qui vont être utilisés pour se nourrir. Il est totalement proscrit d'utiliser l'or et l'argent.
Une timbale en argent, par exemple, c'est...
Une timbale.
C'est une timbale, c'est un petit verre, vous savez, les...
Tout ça, c'est proscrit. C'est-à-dire, sauf si on l'utilise comme décoration. C'est-à-dire que si l'objet est posé dans un... comme une...
dans une vitrine.
Dans une vitrine pour être décoration, oui. À partir du moment où on l'utilise, on le met à la bouche pour boire avec ou pour consommer quelque chose avec, ça devient péché et ça devient interdit. Donc, finalement, si l'artisan fabrique ses objets... pour être des objets de décoration, c'est halal, il a le droit de le faire. Si il le fait dans un but d'être utilisé pour, par exemple, des couverts, des assiettes, des fourchettes, des cuillères, etc., des couteaux, pour être utilisés comme des moyens pour manger, eh bien là, ça devient interdit. Il est le prophète
tout
clair là-dessus.
Orfèvrerie.
Il dit: La tashrabu fi aniyati al-dhahab wal-fidda, wa la ta'kulu fi sihafiha, fa innaha lahum fi al-dunya wa lakum fi al-akhirah. Il dit, le prophète, ne mangez pas et ne buvez pas dans des récipients en or ou en argent, car elles seront pour eux dans ce bas monde et elles seront pour vous le jour du jugement dernier au paradis.
Tout ce qu'on appelle les ménagères, qui sont souvent en argent, donc ça c'est
proscrit.
C'est proscrit. On termine juste parce que on dit que l'or et la soie naturelle sont interdites.
Pour les hommes, c'est-à-dire les objets décoratifs que l'on porte sur soi. Hein, je parle des hommes et il est interdit d'utiliser la soie et l'or. On n'a pas le droit de porter des vêtements en soie.
Pour les hommes, on est d'accord. Pour les hommes,
et on n'a pas le droit de porter des bijoux en or. Alors il y a une
c'est-à-dire pas de gourmet, pas de montre.
Ah si, une montre.
Bah, une montre en or.
La montre, ça dépend. Parce que est-ce qu'elle est décorative ou est-ce qu'elle est dans un objet d'utilité? Alors par contre, justement, si je voulais venir à cela, c'est qu'il y a une exception. C'est si l'objet a une utilité. C'est-à-dire s'il n'est pas pour, un objet décoratif, mais il a une raison d'utilité. Par exemple, si je mets un casque et qu'une partie de ce casque est en or, c'est pas interdit. Par exemple, des boutons en or que je vais attacher mon vêtement avec ou des broderies.
Ouais.
En or, des fils en or qui vont décorer mon vêtement qui n'est pas lui en soie ni en or. Là aussi, c'est autorisé d'utiliser de la soie aussi pour décorer un vêtement qui lui n'est pas en soie.
D'accord.
Donc, utiliser la soie.
J'en reviens à ma chaîne et à ma montre parce que c'est quand même les objets et l'alliance.
La bague en or et l'alliance en or ou le collier ou tout ça est totalement proscrit. Le prophète dit clairement en montrant ces objets qui sont en or, on dit man labisaha fi dunya la khalaqa lahu biha yawm al-qiyamah. Il n'en aura pas droit le jour du jugement dernier s'il la porte dans ce bas monde.
Pas d'alliance, pas de gourmette.
En or.
Oui, j'ai compris, en or.
Par contre, il est autorisé la bague en argent. Pour les hommes ont le droit de porter l'argent, seulement la bague.
D'accord.
Et le prophète avait une bague en argent qu'il portait dans son auriculaire droite.
Et pour la montre, donc si c'est utile, si j'ai bien compris.
Oui, si en argent ou en or. Si elle a une utilité, c'est-à-dire que c'est.
Si elle donne l'heure. Est-ce que si ça donne l'heure, c'est utile?
Voilà, si oui, bien sûr.
D'accord. Ça, donc, là, oui. Bien, on est pris par le temps. Alors, vous pourrez répondre à la question pour la poupée Shifa dans un instant. Et Imam Abdelali Mamoun, tout à l'heure, vous nous racontez l'histoire d'un verset. Aujourd'hui, c'est le verset 14 et la sourate 49 que vous évoquerez dans un instant.
9h-10h, à votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM.
Alors Imam Abdelali, il y a beaucoup de questions, on n'a pas beaucoup de temps, il faut qu'on fasse tout dans le temps qui nous est imparti. Non. Donc, on rappelle la question que vous posez ce matin pour gagner une poupée Shifa dernier modèle.
Le nom du compagnon Badri qui a failli trahir le prophète juste un peu avant la conquête de la Mecque.
Et le numéro...
Comment s'appelle ce compagnon-là?
Voilà, le numéro que vous composez, si vous avez la bonne réponse, c'est le 01-53-48-3000 et c'est peut-être vous donc, qui partez avec la poupée Shifa. Alors évidemment, la question des interdictions, elle amène beaucoup de questions, notamment sur la soie. Une question sur la soie qui vient d'arriver. Alors pour les personnes qui sont obligées, Imam Abdelali, de porter de la soie parce qu'ils font des allergies, par exemple.
Là, effectivement, il y a dérogation, bien sûr. Quand on parle de problèmes de santé, bien sûr, les règles islamiques ne s'appliquent plus. Une personne qui est obligée de porter de la soie parce qu'elle a une allergie aux autres tissus polyester, etc., ou même le coton ou aux autres tissus, il leur est bien sûr permis d'utiliser la soie pour ne pas justement subir ces problèmes d'allergie. Mais bien sûr, dans la mesure du nécessaire, parce que, par exemple, Philippe, si porter un sous-vêtement en soie suffit pour ne pas avoir ce problème-là, eh bien, à ce moment-là, seul le tissu qui va se coller à la peau va être en soie. Le reste des tissus ne devra pas être en soie. On est bien d'accord.
Bien.
C'est seulement la nécessité qui fait loi.
Bien, il y aura beaucoup de questions. On y répondra tout à l'heure. Chaque semaine, vous évoquez.
Je précise, c'est une question de mon frère Mohamed Lep, notre ami du Ramadan.
Voilà, qui est là, qui
avait,
posait la question.
Avait des filles
et qu'on salue.
Qui nous avait chanté des belles chansons.
Voilà, et qui vous avait remplacé un soir pour faire l'Aden à Gakan. Alors, ce soir, vous nous racontez, aujourd'hui, vous nous racontez pas ce soir, parce qu'il est 9h47, Imam Abdelali, histoire d'un verset. Et c'est le verset 14, qui s'appelle les appartements. Et vous vous intéressez aujourd'hui à la sourate 49.
Oui, donc c'est la sourate 49, verset 14, dans lequel Dieu dit, donc l'arabie, je vais d'abord dire en arabe. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Donc sourate Al-Hujurat, verset 14, où Dieu dit: Les Bédouins ont dit: Nous avons la foi. Dis: Vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt: Nous nous sommes simplement soumis, car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Et si vous obéissez à Allah et à son messager, il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. Allah est pardonneur et miséricordieux. Eh bien, dans ce verset-là, Philippe, Dieu raconte justement, il réagit face à une situation, un événement, l'époque du prophète, quand il est à Médine, il reçoit une délégation de Bédouins qui viennent de la campagne de Médine, notamment lors d'une année de sécheresse et d'une aridité extraordinaire. C'est-à-dire que les bêtes commençaient à mourir, les enfants et les familles n'avaient plus rien à se nourrir, etc. C'était une véritable année de disette accablante et qui était en train de décimer les populations aux alentours de Médine. Donc ces Bédouins, venus des campagnes de Médine, arrivent à la Mecque en faisant croire qu'ils sont convertis à l'islam. Et ils arrivent à Médine. Alors pour te dire le caractère extrêmement brutal de ces personnages, c'est que ce sont des gens qui n'ont aucune éducation, puisqu'ils arrivent, ils salissent les chemins et les différents passages dans les ruelles de Médine avec les déchets de leurs animaux. Ils salissent la ville de Médine et à partir de là, ils arrivent dans la mosquée et ils disent au prophète: nous on t'a pas combattu, nous on t'a pas fait la guerre, on est des musulmans, donne-nous de ce que Dieu t'a accordé comme richesse, car nous sommes aujourd'hui en situation difficile et en difficulté financière. Et là, Dieu, bien sûr, ne va pas dénoncer leur hypocrisie, parce que d'une certaine manière, ils viennent hypocritement avouer quelque chose qui n'est pas vrai. Hein, quand ils diront qu'ils sont croyants, alors qu'ils ne le sont pas, Dieu va simplement leur dire: soyez honnêtes, ne dites pas que vous êtes des croyants, dites que vous êtes des soumis, c'est-à-dire que vous êtes des muslimines, et que l'islam, ce n'est pas le iman. L'iman n'a pas encore intégré vos cœurs, c'est-à-dire la foi n'a pas encore intégré vos cœurs, et soyez dans cette démarche progressive de cheminement spirituel qui consiste à passer d'une étape à une autre, progressivement, et d'admettre que vous êtes aujourd'hui que des soumis, et que demain, Inch'Allah, grâce à la pratique, grâce à la connaissance de la révélation du prophète, et à l'accompagnement du prophète bien-aimé Muhammad alayhi salatu wasalam, vous allez vous imprégner de cette foi, mais surtout de ce comportement civil, et citadin, et raffiné, que le prophète était imprégné en tant que personnage qui avait le meilleur des comportements. Le prophète le dit: innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq. Ces bédouins étaient d'une éthique et d'une moralité extrêmement mauvaise et exécrable. Ils avaient des comportements sales, dégueulasses, c'était des gens très sales. Voilà, c'était des bédouins, et le prophète est donc a accepté malgré tout leur conversion, et ne les a pas rejetés en les accusant d'hypocrisie, en disant: vous êtes là juste pour venir profiter parce que vous êtes en galère, et qu'aujourd'hui maintenant vous êtes le seul salut pour sauver vos bêtes et les membres de votre famille, c'est de venir vous convertir hypocritement. Non, il n'a pas eu cette attitude-là. Le prophète, il a accepté leur conversion, et même Dieu a accepté leur conversion et leur a dit: soyez des gens qui acceptaient de progresser dans la religion petit à petit.
Bien, alors, nous, au 01-53-48-3000, Imam Abdelali, on va prendre des réponses aux questions, à la question que vous avez posée tout à l'heure pour remporter cette poupée Shifa. C'est Abdel qui est avec nous. Abdel, bonjour, bienvenue et meilleurs voeux.
Bonjour, salam alaikum.
Alaykoum salam.
Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Vous allez bien tout le monde, bonne année.
Meilleurs voeux, Abdel.
Merci beaucoup.
Alors, vous pensez avoir la réponse à la question qu'a posée l'imam?
Je donne ma réponse.
Oui, allons-y, vas-y.
C'est Sayyidina Hatib ibn Balta'a.
Ibn Abi Balta'a, mashallah alayk. Al-jawab sahih. Bonne réponse.
Voilà, premier appel, première bonne réponse.
Voilà, c'est bon. Bravo. Alors, il s'appelle Hatib ibn Abi Balta'a, radiyallahu ta'ala anhu, que Dieu l'agrée. qui a été ce compagnon qui a failli trahir, je le rappelle, il n'a pas trahi, mais il a failli trahir le prophète qui voulait garder une discrétion totale avant de conquérir la Mecque pour éviter l'effusion du sang et pour éviter que les Mécois se préparent et préparent une armée contre eux, l'arrivée du prophète. Et effectivement, Dieu lui a pardonné et le prophète lui a pardonné parce que Dieu avait décidé de pardonner à tous ceux qui avaient participé à la bataille de Badr. Et il lui dit « Inna Allah attala ala ahli Badr faqala fa'alu mashi'tum fa inni qad ghafartu lakum » Ça montre combien l'immensité de la miséricorde d'Allah, même envers les traîtres, parce qu'il s'agit véritablement d'un acte de haute trahison. Imagine-toi, Philippe, demain, des officiers d'une armée, de l'armée, par exemple, l'armée française, qui est en guerre contre un pays quelconque, va informer l'ennemi.
C'est de la trahison.
Eh bien, il est condamné à mort. Là, même Omar al-Khattab, qui a voulu lui couper la tête, le prophète lui a dit, attends, laisse-le, attends, c'est un badri, c'est un homme, un compagnon qui a participé à la Badr et qui a contribué à la plus grande victoire et à la plus grande, et à la, voilà, maintenant que, faire comprendre à tout le monde, dans la péninsule arabique, que les musulmans sont une communauté redoutable qu'il faut craindre et que l'on ne peut pas agresser comme ça facilement. Donc ce Badri, Hatib ibn Abi Belta'a, a fait l'objet d'une clémence de la part d'Allah Azza wa Jal et c'est pour cela que j'ai voulu justement choisir comme question ce personnage. Donc bravo, il s'appelle comment? J'ai oublié son prénom, le frère.
Abdel.
Abdel comment? Allô? Abdel est parti?
Non.
Ah bah, allô, salam alaikum.
Alors mince, on n'a pas pris ses coordonnées.
Ah, si, on a ses coordonnées, non? On n'a même pas?
Non.
Ah bah, il faut que, bah, on va lui demander de nous rappeler, parce que tu as gagné une poupée Shifa, Abdel, donc n'hésite pas à rappeler, donc le 01 53 48 3000, parce que ça serait dommage que alors que tu as donné la bonne réponse, que l'on ne t'envoie pas ce cadeau, cette récompense, que je rappelle est un cadeau offert par l'agence, plutôt la boutique Orientica, Iqra Shop, donc, qui nous offre ces belles poupées Shifa, qui sont pour les enfants et dans lesquelles il y a énormément de récitations, de versets du Coran, d'invocations, etc., de Aourad, Nabi alayhi salatu wasalam, et des évocations du prophète bien-aimé Mohammed alayhi salatu wasalam. Donc c'est un beau cadeau, je vous invite à aller rendre visite à cette boutique qui se trouve à Couronne, elle est aussi à Créteil et Argenteuil. À Creil, excusez-moi, pas Créteil, mais à Creil. À Creil et à Argenteuil. Donc c'est Orientica qui nous fait ce magnifique cadeau. Barakallahu fihim wa ja'ala tijaratahum rabiha, inshallah.
Et c'est la dernière version, hein. C'est la poupée.
C'est la dernière version.
2018, hein. Millésimé 2018.
Pratiquement 2019.
Toutes les nouvelles options. Imam Abdelali, donc on n'a pas pu prendre tout le monde, mais on arrive à la fin de cette émission. Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent, qui peuvent et qui n'ont pas pu passer à l'antenne, qu'ils peuvent vous poser leurs questions directement sur votre téléphone.
Alors,
vous appelant,
le 06, excuse-moi, 06 29 25, je répète, 06 29 25 35 00, 06 29 25 35 00, une information importante qui émane du consulat général d'Arabie Saoudite, les inscriptions pour le pèlerinage cette année devront être clôturées avant le début du Ramadan. Donc c'est très très important.
Alors que d'habitude c'est pendant le Ramadan.
C'est que là où est-ce qu'effectivement tout le monde pense aller au pèlerinage. Alors ceux qui veulent aller au pèlerinage, Allah yajazikoum bikhair, appelez tout de suite l'agence avec qui vous avez envie de partir y aller. Moi aussi par contre, j'organise cette année. Donc ceux qui veulent y aller au pèlerinage à la Mecque cette année, je parle du grand Hajj, hein, qui aura lieu au mois d'août. Bon, bah, vous pouvez m'appeler au 06 29 25 35 00. Un bisou à mon cousin Cheikh Nourdin Ma'moun qui vient de me faire une petite invocation pour ma mère, parce qu'il a apprécié ma lecture du Coran. Donc, Cheikh Nourdin, je te fais un gros bisou à toi et à tous tes proches.
Bien. Alors, en parlant de bisous, on vous retrouvera jeudi prochain.
Et son papa, Cheikh Mimoun, mon oncle préféré.
Imam Abdelali.
Ah, j'en profite.
Ah, bien, vous avez raison.
Ah, je le kiffe, mon oncle.
On vous retrouve, tiens, samedi.
Et ma tante aussi.
Samedi, vous serez avec nous de 10h à 11h dans Speak Uni, puisque nous consacrerons la première émission de l'année à la laïcité, puisque vous savez que le gouvernement envisage de réformer la loi de 1905. C'est un de ses grands chantiers de l'année 2019. Donc, vous serez avec nous pour en parler samedi entre 10h et 11h. Et je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour vos petites annonces à partir de 11h.